Radio Prague, les informations. Bonjour, Top 09 a quitté le Conseil des ministres en signe de protestation contre les propos du très controversé Ladislav Batora. La République tchèque ne planifie pas l'adoption de l'euro pour l'instant et puis en football, le Viktoria Plzeň a fait un grand pas vers la qualification pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Comme annoncé en titre, les ministres du parti Top 09 ont donc quitté ce mercredi matin la réunion du gouvernement. Ils demandent la révocation de Ladislav Batora du poste de directeur du service personnel du ministère de l'Éducation nationale. En marge de sa critique du récent défilé des minorités sexuelles, Prague Pride, Ladislav Batora a insulté sur sa page Facebook le ministre tchèque des Affaires étrangères et président du Top 09, Karel Schwarzenberg. Ladislav Batora est une figure controversée de la scène politique tchèque. Il dirige l'initiative DOST, dominée par les ultra-conservateurs proches de l'extrême droite. Le ministre de l'Éducation nationale, Josef Dobesch, Affaires publiques, a annoncé ce mercredi qu'il présenterait ses excuses à Karel Schwarzenberg sans toutefois révoquer Ladislav Batora de son poste. Fixer aujourd'hui une date pour l'adoption de l'euro ne serait pas une bonne décision pour la République tchèque. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le Premier ministre Petr Nečas à l'issue du Conseil des ministres. Selon le chef du gouvernement, la crise financière actuelle dans la zone euro fait de la monnaie européenne, je cite, autre chose que ce qui figurait dans le traité d'adhésion à l'Union européenne en 2003. Les conditions pour l'adoption de l'euro ne sont pas claires actuellement, a expliqué Petr Nečas. En mai dernier, celui-ci avait indiqué que la République tchèque adopterait l'euro lorsque les frais pour le maintien de la couronne serait plus élevé que l'introduction de la monnaie unique européenne. En janvier, l'Estonie était devenue le troisième pays d'Europe centrale et de l'Est, après la Slovénie et la Slovaquie, à avoir adopté l'euro. Les représentants du gouvernement, des employeurs et des syndicats ont discuté mardi des réformes fiscales et des retraites prévues par le gouvernement. En matière de réformes fiscales contestées par les syndicats, leur débat n'a apporté aucun résultat concret. À son issue, le président de la Confédération tchéco-morave des unions syndicales n'a pas voulu s'exprimer sur les futures protestations des syndicalistes contre les réformes. Rappelons qu'en juin dernier, les syndicalistes ont manifesté leur mécontentement lors d'une grève générale des transports dans le pays. En revanche, le gouvernement, les employeurs et les syndicats se sont mis d'accord sur une nouvelle législation qui donne aux personnes exerçant des métiers pénibles la possibilité de partir à la retraite anticipée. Ces personnes pourraient ainsi partir à la retraite 5 ans plus tôt que les autres salariés. Leur pension serait partiellement financée par les employeurs. L'université Charles figure selon le classement de Shanghai parmi les 1,5% des meilleures universités mondiales. Dans le classement 2011, elle occupe les 201 à 300e place parmi 17 000 écoles supérieures du monde entier. En tête du classement figure l'université de Harvard, suivie d'autres universités prestigieuses aux États-Unis et en Grande-Bretagne. L'université Charles a été devancée par une seule école supérieure d'Europe centrale et de l'Est, à savoir par l'université de Moscou qui occupe la 64e place, l'université de Saint-Pétersbourg ayant selon ce classement un niveau équivalent à celui de l'université Charles. Plus de 3000 pèlerins de toute la République tchèque participent aux 26e Journée mondiale de la jeunesse qui se tiennent du 16 au 21 août à Madrid. Avant d'arriver dans la capitale espagnole, les jeunes tchèques ont visité Annecy. Ils ont également fait un arrêt dans l'archidiocèse de Tarragona. Les pèlerins tchèques sont accompagnés des archevêques de Prague et d'Olomouc ainsi que des évêques d'Ostrava, de Plzeň et de České Budějovice. Le pape Benoît XVI est attendu à Madrid ce jeudi. On passe au football. Mardi soir, le FC Viktoria Plzeň a battu au 4e et dernier tour préliminaire de la Ligue des Champions, disputé sur la pelouse danoise, le FC Copenhague 3-1. Le match retour se disputera mercredi prochain à Prague. Le stade du Viktoria Plzeň n'étant pas aux normes fixées par l'Union Européenne de football. Après cette victoire, les Tchèques du Viktoria Plzeň ont de fortes chances d'accéder à la phase de poule à laquelle aucun club tchèque n'a participé depuis 4 ans. On termine avec un mot de météo. Ce mercredi, jour de la fête des Petra en République tchèque, nous profitons d'un beau temps ensoleillé avec des températures situées entre 23 et 27 degrés pour la maximale. Jeudi, ce sera encore un gros soleil et les températures devraient grimper jusqu'à 30 degrés. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie et plus précisément en la compagnie de Magdalena Rozinkova.
Faits et événements en République tchèque.
Bon. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur Radio Prague à l'écoute de notre programme en français. Dans notre émission du jour, nous parlerons d'abord d'une pétition lancée pour demander un assouplissement de la législation concernant le cannabis à usage thérapeutique. Une carte pour les touristes qui veulent découvrir la capitale tchèque hors des sentiers battus. C'est le projet de Jeune Tchèque qui distribue gratuitement ce guide d'un nouveau genre. Vous entendrez l'une des membres de l'équipe à base de ce projet alternatif. Dans la seconde partie du programme, Jarka Gisubleva vous parlera dans la rubrique historique de l'Évangéliaire de Strahov, le plus ancien livre existant sur le territoire de la République tchèque. Très bonne écoute. La légalisation de l'usage médical du cannabis, c'était l'objectif d'une pétition qui est abondamment discutée ces derniers jours dans les médias tchèques. Parmi les organisateurs de cette initiative figurent malades, médecins, chercheurs et spécialistes de la lutte contre les stupéfiants. Ils sont tous convaincus que les lois tchèques concernant l'usage thérapeutique du cannabis sont trop sévères et qu'elles empêchent les malades de profiter des vertus curatives de cette plante. Václav Richter.
Les organisateurs de la pétition soulignent que leur objectif n'est pas de décriminaliser l'usage récréatif du cannabis. À leur avis, cependant, rien ne peut justifier la sévérité des lois qui ne tolèrent pas l'utilisation de cette plante dans la médecine et dans la recherche médicale. Selon Tomasz Zabranski de la faculté de médecine de l'université Charles, il ne s'agit donc nullement de la légalisation d'une drogue, car l'usage médical du cannabis est comparable à l'administration de la morphine aux malades souffrant de grandes douleurs. Les propriétés thérapeutiques du cannabis sont d'ailleurs de plus en plus reconnues. La plante et les cannabinoïdes qu'elle contient sont de plus en plus utilisés, par exemple, dans le traitement de la sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de troubles digestifs et de toute une série d'autres affections, dont les maladies auto-immunes. Il s'avère qu'il s'agit d'une plante médicinale par excellence, aux fortes propriétés analgésiques, antispasmodiques, relaxantes, stimulantes et même anti-inflammatoires. Tomasz Zabranski déplore que les malades cherchant à se procurer cette plante doivent transgresser la loi.
Les malades sont contraints au marché noir, c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. Soit ils achètent le cannabis à un prix exagéré au marché noir, soit ils le cultivent eux-mêmes en s'exposant ainsi au risque d'être poursuivis. C'est irresponsable et même indigne d'un pays civilisé.
Actuellement, il y a en République tchèque un seul médicament enregistré contenant des substances cannabinoïdes, mais pour le moment, il n'est pas dans les pharmacies. Il coûte 15 000 couronnes, 600 euros, et il faut encore décider dans quelle mesure il sera remboursé par les caisses d'assurance maladie. Les propriétés curatives du cannabis ne faisant plus de doute, l'initiative en faveur de son usage thérapeutique ne se heurte presque plus à l'opposition des organes compétents. Même le directeur de la centrale antidrogue, Jakub Friedrich, approuve l'utilisation de la plante à des fins curatives et à la recherche, à condition que ses activités soient strictement contrôlées.
Je suis absolument contre le diagnostic fait par les malades eux-mêmes, contre le cannabis cultivé par les malades et contre les soins que les malades dispensent à eux-mêmes sans que toutes ces activités ne soient légalisées par l'autorisation du médecin.
Le ministère de la Santé ne s'oppose pas non plus à un amendement à la loi sur les stupéfiants qui sera nécessaire pour l'autorisation de l'usage thérapeutique du cannabis, mais il souligne qu'il faut d'abord fixer les règles de tels soins. L'attaché de presse du ministère Vladimir Sršeň constate.
Nous envisageons de préparer l'amendement de cette loi. Il faut néanmoins initier encore une grande discussion sur ce problème.
La discussion sur le problème risque donc encore de se prolonger et la loi tellement convoitée par les malades ne pourra entrer en vigueur que l'année prochaine.
Use it Prague, c'est le nom de la carte touristique créée par de jeunes tchèques pour les touristes qui viennent à Prague et qui ne veulent pas se contenter du château et de l'horloge astronomique. Distribuée gratuitement et téléchargeable sur Internet, cette carte détaillée est adaptée d'un modèle qui existe déjà dans d'autres capitales européennes. Renata Polohova fait partie de l'équipe en charge du projet à Prague et a répondu aux questions d'Alexis Rosenzweig.
Bonjour Renata, alors vous participez à ce projet de carte qui est une sorte de carte alternative pour les touristes à Prague. D'où est-ce qu'est venue cette idée ?
Cette idée vient de Danemark, ce n'est de, en 70 années. Et c'est une carte qui permet de découvrir la ville dans une façon alternative, comme je le dis. Et ça permet aux touristes de voir la ville avec des yeux du monde qui habite là.
C'est-à-dire que ce sont des jeunes Pragois en fait qui parlent de leurs endroits préférés.
Oui, oui, exactement. Il y a 8 personnes qui ont pris cette idée. Et eux sont qui ont fait la carte de cette façon. Et après, il y avait plus de monde qui ont mis ces idées et ont travaillé sur ce projet.
Alors, on vise quel genre de touristes ?
En fait, cette carte se focus aux jeunes touristes qu'on dit backpackers. Alors, ce sont des jeunes qui essaient de voyager. Non, on ne peut pas dire sans sous, mais avec des expenses le plus bas.
Avec peu de moyens. Alors, on se trouve sur la place de la Peine à Miestimiro. Et par exemple, sur votre carte, on recommande à ces touristes d'un genre un peu alternatif de faire un tour au marché aux puces.
Ah oui, oui. C'est une chose qui est bien connue pour cet endroit. On dit bien dans cette carte que le meilleur hot dog, on peut trouver ici. Il y a des choses, parce que si vous avez un guide de, je sais pas quoi, quoi livre, ce sont des choses trop touristiques. C'est la place de vieille ville, c'est le château. Et ce guide vous invite aux endroits qui sont bien connus, mais sont bien... ouais, plein du monde.
Et par qui est-ce que... Alors, c'est une carte, en fait, gratuite, une carte détaillée. Qui est-ce qui finance ce projet ?
Ce projet est financé par la Union européenne, aussi par la ville de Prague. Et parce que du monde qui travaille sur ça sont des bénévoles. Alors, on n'est pas payé. Alors, toutes les expenses sont seulement sur... La carte.
Est-ce que c'est pas trop difficile, ce sera ma dernière question, est-ce que ce n'est pas trop difficile de dévoiler ces endroits préférés à Prague où justement on essaie d'éviter les touristes? Est-ce qu'il n'y a pas ce côté où on se dit ben finalement j'ai pas envie que cet endroit figure dans la carte pour les touristes parce que j'ai pas envie de voir trop de touristes dans mes endroits préférés?
Ouais, je crois que ça dépend parce que cette carte... Comment on essaye de toucher un groupe de personnes, exactement. Alors, je crois qu'on aime bien d'avoir ces jeunes dans les endroits préférés. Alors, de ce point de vue, je crois que c'est pas de... Je sais pas comment dire ça.
Ça pose pas de problème?
Ça pose pas de problème, oui, c'est ça. Je peux dire, ça me gêne pas. S'il y a du monde, ce sont aussi des touristes, mais ce sont des touristes différents. Ce sont des touristes qui essayent de faire les choses différemment, comme j'essaye si je suis un étranger.
Merci beaucoup, Renata.
Je vous en prie.
Pour plus d'informations sur cette carte spéciale de Prague, c'est sur internet au www.use-it.cz. L'Évangéliaire de Strahov, le plus ancien livre existant sur le territoire de la République tchèque, déposé dans un coffre-fort de la bibliothèque du monastère de Strahov, va être reproduit en fac-similé. Si jusqu'à présent les personnes intéressées ne peuvent feuilleter ce précieux document du 9e siècle que dans sa forme numérisée sur Internet, 189 exemplaires en fac-similé seront à leur disposition dès le mois de janvier 2012. Une occasion unique d'admirer le manuscrit vieux de plus de 100 ans s'est présenté à l'occasion de la signature du contrat sur les droits de reproduction entre le monastère de Strahov et la société Tempus Libri chargée de réalisation de reproduction exacte. Le parcours de l'évangéliaire richement enluminé, créé en 860 dans le scriptorium du monastère de Tours en France et apporté à Prague par les premiers prémontrés fondateurs du monastère de Strahov avec Jarka Gusblova.
Chapitre de l'histoire.
C'est dans la salle philosophique de la bibliothèque du monastère de Strahov, sous les fresques du plafond retraçant le combat de l'humanité pour la connaissance, que s'est déroulée la présentation exceptionnelle de l'évangéliaire de Strahov. Sur les quelques 130 000 volumes, 2000 manuscrits enluminés et 2600 incunables conservés par la bibliothèque, l'évangéliaire de Strahov est l'objet le plus rare, observe le directeur de cette bibliothèque, Evermont Geisachidlo.
Pour la première fois dans la mémoire historique du monastère, l'évangéliaire est présenté au grand public. L'évangéliaire de Strahov, qui contient les textes des quatre évangiles, est un manuscrit en latin créé en accord avec le constat d'experts européens en l'an 860 dans le célèbre couvent de Saint-Martin de Tours, réputé pour son atelier de production et reproduction de Bibles et d'évangiles enluminés. Après un certain temps, autour de l'an 1000, l'évangéliaire fait son apparition à Trèves, en Rhénanie. Ici, il est en possession du cloître de la cathédrale, comme en témoignent des suppléments qui y sont alors ajoutés. Il existe plusieurs théories pour reconstituer le chemin de l'évangéliaire depuis Tours jusqu'à Prague via l'Allemagne. L'une d'elles est basée sur la ressemblance de la décoration figurative de la reliure de l'évangile de Strahov avec celui du monastère de Steinfeld en Westphalie, celui même à partir duquel le monastère de Strahov a été fondé en 1103. Selon cette même théorie, ce sont les premiers prémontrés qui ont apporté en 1143 ce manuscrit à Prague et depuis il est déposé à la bibliothèque de Strahov.
Fondé en 1140 à proximité du château de Prague, le monastère de Strahov est l'un des plus anciens du pays. Détruit par un incendie en 1258 et reconstruit dans le style gothique, il connaît un important remaniement baroque au XVIIe siècle. Les travaux sont menés par les architectes Giovanni Domenico Orsi, Jean-Baptiste Mattei et Anselmo Lurago. La célèbre bibliothèque de Strahov vieille de plus de 800 ans, reste une des plus importantes de Bohême et une des plus belles bibliothèques baroques d'Europe, malgré les pillages menés par bien des envahisseurs. Elle possède deux magnifiques salles, la salle philosophique avec son super plafond et la salle théologique abritant des globes astronomiques réalisés au XVIIe siècle, sans oublier la pinacothèque comptant dans les 1500 tableaux. En 1950, le monastère est fermé et les religieux sont déportés dans des couvents d'internement et des camps de travaux forcés. En 1953, les locaux sont reconstruits pour abriter le musée de la littérature nationale. Après 1989, les prémontrés retournent à Strahov. L'évangéliaire de Strahov est constitué de 222 feuilles, soit 444 pages. Ses dimensions sont de 270 mm sur 168 mm. Certaines parties du manuscrit, des titres et la plupart des dessins sont décorés de feuilles d'or. L'évangéliaire contient quatre enluminures figuratives des évangélistes, Saint Matthieu accompagné de l'attribut allégorique de l'ange, Saint Marc représenté par le lion, Saint Luc accompagné du bœuf et Saint Jean dont le symbole est l'aigle. Les couvertures et la reliure sont plus récentes, datant de la période autour de l'an 1500 et on suppose qu'elles sont d'origine tchèque. La face est recouverte de velours rouge richement orné, avec pour dominante quatre statuettes dorées disposées en dessus du motif de la crucifixion, la Vierge à l'enfant, le Christ bénissant et de saints évêques. Ensuite, il y a quatre médaillons des évangélistes. La composition est complétée de sept cristaux taillés et de pierres semi-précieuses. Dans le passé, l'évangélière a plusieurs fois déménagé. Les prémontrés fuyant les Hussites l'ont caché à Wrocław, en Pologne. Il est sûr qu'ils l'ont caché en dehors du pays pour le mettre à l'abri des Suédois qui ont pillé le monastère de Strahov au XVIIe siècle, raconte Gejza Schidlowski.
L'évangéliaire de Strahov est l'un des manuscrits les plus rares au monde. D'autres, qui lui ressemblent, sont conservés dans la bibliothèque apostolique au Vatican. Un autre, moins décoratif, se trouve dans la bibliothèque métropolitaine du château de Prague. Créé par des moines copistes dans les scriptoriums des cloîtres en France et en Allemagne, les évangéliaires sont des manuscrits les plus décorés et les plus précieux du haut Moyen-Âge. Pour nous, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'incroyable de pouvoir toucher un objet créé il y a plus de 1100 ans. Il fournit un témoignage de l'époque des saints Cyrille et Méthode. En le touchant, on se rend compte de la grandeur de la culture introduite par le christianisme. Or, c'est aussi un témoignage qui nous vient de Trèves, où le manuscrit de Strauss a été enrichi de 4 enluminures des évangélistes et qui sont un exemple de l'art pictural de la période ottonienne du milieu du Xe siècle. Et nous voilà à l'époque de Saint Adalbert, qui était très proche de l'empereur Otton Ier. Il n'est donc pas exclu que les deux hommes aient touché ce livre, car Trèves était une ville impériale et Saint Adalbert y a aussi séjourné.
L'évangéliaire de Strahov est rédigé en latin. Le texte est en lettres d'une onciale très régulière, soit une variation de l'écriture latine empruntant des formes majuscules typiques pour l'époque carolingienne. Ce livre rare et unique qui ne quitte jamais la bibliothèque de Strahov pourra dorénavant faire l'objet de recherches, d'études et de lectures grâce aux facsimilés qui seront produits au nombre de 199 par la société Tempus Libri, la seule société en République tchèque spécialisée dans la création de reproductions exactes de livres rares, de sorte que le fac-similaire reproduit l'original non seulement en ce qui concerne l'aspect physique, mais aussi les technologies et les matières utilisées. Les parties en or seront faites en or, et grâce aux cristaux et agates, chacune des 199 reproductions sera un original, remarque Tomáš Žilinčáš de la société Tempus Libri.
Le manuscrit sera numérisé, on utilisera des technologies sans contact. Le processus est extrêmement exigeant, chaque point est scanné séparément. Une page prend environ 40 minutes, alors que l'évangéliaire en compte 444. Les pages numérisées seront ensuite imprimées et complétées à la main, y compris la décoration et la rayure. A pak už probíhá vlastně ta ruční kompletace,
snášení, šití toho knižního bloku, ozdoba, výzdoba. Le prix d'un facsimilé de l'évangéliaire de Strahov s'élèvera à 350 000 couronnes. Qui sont les personnes potentiellement intéressées par cet achat? On écoute Tomáš Žilinčáš.
Nos clients sont des personnes qui sont attirées par la rareté, l'exclusivité, le luxe. Ce sont des collectionneurs, des artistes qui savent apprécier un tirage relativement faible. Et on note bien évidemment aussi un certain intérêt de la part des bibliothèques, des institutions et des musées.
Plusieurs exemplaires de facsimilés de l'évangéliaire de Strahov seront offerts au monastère qui est détenteur des droits. Une vingtaine de pièces seront vendues aux enchères et les moyens obtenus reversés au profit de fondations.
Merci à Jarka Gusiblova pour ce nouveau chapitre de l'histoire tchèque. C'est tout pour aujourd'hui. Magdalena Hrozinková vous remercie pour votre attention et votre fidélité.